À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre séquence midi. Au menu du jour, votre rendez-vous cinéma du mercredi. Ce sera en seconde partie d'émission. On parlera aussi du congrès de l'AVUF, l'association des villes universitaires de France, qui se déroulera à Poitiers cette année. Et comme chaque jour, vous retrouverez votre agenda et vos découvertes musicales. Mais tout de suite, je vous propose de fêter un anniversaire ensemble, celui de l'association DACPO à Poitiers, qui fête donc ses 40 ans. Et sa présidente est avec nous aujourd'hui, c'est Katia Paquet. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Alors, DACPO Poitiers, c'est l'association bouddhiste de Poitiers, donc qui est née il y a 40 ans. Est-ce que, bon, j'imagine que vous n'étiez pas là à ce moment-là, mais est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette communauté bouddhiste à Poitiers?
Alors, il y a une personne de Quincey qui a rencontré en Dordogne un maître tibétain qui a été extrêmement inspiré par cette rencontre et qui a souhaité développer un lieu localement chez lui de pratique et d'enseignement. Donc, il a fait fédérer un petit peu quelques personnes autour de lui. Il a fait venir différents maîtres. Et ça a commencé comme ça. Et puis, il y a 10 ans, pour le coup, parce qu'on fête nos 40 ans de création et les 10 ans, on a pu acheter un local en centre-ville de Poitiers, au 11 rue Rabelais, pour être au plus près des Poitevins.
Et alors, qui sont les membres d'une communauté bouddhiste en France? Comment on devient bouddhiste?
Alors, comment on devient bouddhiste? C'est surtout une question de recherche spirituelle intérieure et souvent une quête de sens. Après, ce que je peux vous dire, c'est donc nous, on est une cinquantaine d'adhérents. Donc, c'est très varié. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Il y a des bouddhistes et il y a aussi des laïcs, des actifs, des retraités. On est assez représentatif de la société française, finalement.
Et alors, qu'est-ce que vous, personnellement, vous êtes venu rechercher dans cette spiritualité-là?
Vraiment des questions sur qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, parce que je suis vraiment arrivée avec un mal-être finalement. Et donc c'était cette recherche de réponse éventuellement.
Que vous trouvez, alors les pratiques connues, c'est la méditation, c'est ça dans les pratiques bouddhistes, c'est ça que vous pratiquez collectivement ou individuellement?
Voilà, c'est ça. Il y a donc une partie qui sont les méditations. Donc, bien sûr, on peut le faire chez soi. C'est même plutôt recommandé. L'idée, c'est d'avoir une pratique effectivement quotidienne qui peut commencer juste par 5 minutes déjà par jour. C'est déjà pas mal. Et ensuite, il y a effectivement toute une autre énergie dans les pratiques collectives. Et puis, c'est aussi un moment de partager avant, après. On vient chercher aussi des relations humaines, de la chaleur et du partage. Donc ça, c'est une partie. Et l'autre, c'est aussi tout ce qui est écoute d'enseignement, étude de textes philosophiques, où là, on se relie vraiment à la genèse même du bouddhisme, qui a quand même 2500 ans. Donc ce qui est quand même assez fou, c'est de se rendre compte de quelque chose qui est aussi vieux et finalement extrêmement actuel et n'a vraiment pas pris une ride.
Et alors, comment est-ce qu'il y a un moine bouddhiste à Poitiers? Comment se passent les temps de méditation collective?
Alors nous, on n'a pas de moines bouddhistes à Poitiers. Par contre, on a plusieurs personnes qui ont commencé à venir à DACPO Poitiers il y a quelques années et qui se sont senties effectivement l'élan de prendre les vœux de moines. Donc on en a un qui est sur le centre Racine qui se trouve en Dordogne. Et on en a un autre qui vit sur un autre centre où il y a un monastère principalement qui est en Auvergne.
Et donc vous êtes relié à ces autres centres?
Alors voilà, en fait, DACPO, c'est DACPO Poitiers et on n'est pas tout seul, on fait vraiment partie d'un groupement. Il y a une centaine de centres en France, il y en a également en Europe, en principe. Alors en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Espagne. Donc on fait vraiment partie d'un réseau. Qui est aussi connecté avec les États-Unis et puis avec l'Asie.
Et donc un réseau qui s'est installé en France dans les années 70-80, c'est ça?
Oui, dans les années 70, oui.
Et donc c'était assez précurseur, on va dire, à l'époque que le bouddhisme s'installe en France?
Oui, alors je pense que ça a été, alors je connais plus exactement les dates, mais finalement ça vient aussi de l'invasion du Tibet par les Chinois. Il y a toute une sorte de
un exil,
voilà, d'exode. Et donc la France a été un des pays qui a accueilli pas mal de moines bouddhistes, ce qui a permis de pouvoir faire grandir et faire connaître cette spiritualité. Et
donc vous avez d'autres activités. Je sais que vous, alors je ne sais pas si vous y êtes encore, mais vous interveniez au centre pénitentiaire de Vivonne, par exemple.
Alors oui, effectivement, on a parmi nous des personnes qui sont aumôniers pénitentiaires, oui.
Et voilà, ça fait partie de ces méditations que vous proposez en dehors de la communauté bouddhiste voilà, de Dakpo.
Oui, ça fait partie des activités si on se voilà si on se sent l'élan. Il y a effectivement une aumônerie pénitentiaire. Je sais que alors nous on n'en a pas sur Poitiers, mais il y a aussi une aumônerie hospitalière qui existe.
Et donc, quelles sont les différentes activités en tant que présidente que vous développez pour la cinquantaine d'adhérents?
Alors, on a donc des pratiques quotidiennes qui sont le mercredi soir à 18h et à 19h. On a également le dimanche matin à 10h et à 11h. Donc ça, c'est sur place dans nos locaux à Poitiers. Et pour les actifs, pour qui ce n'est pas forcément évident, ces horaires-là, à 7h le jeudi matin, on fait aussi une pratique en visio.
Et alors là, pour l'anniversaire, vous avez un invité de marque?
Alors oui, on a effectivement un invité assez exceptionnel, donc Lama Jingme Rinpoche. Donc lui, c'est un moine tibétain qui est arrivé en France il y a une cinquantaine d'années. Donc il connaît bien notre culture et il fait effectivement partie de ceux qui ont pu développer tout cela en France. Et il a effectivement la confiance du responsable spirituel de la lignée. Donc lui, il est responsable de tous les centres d'ACPO, donc France, Europe, États-Unis. Donc c'est assez exceptionnel qu'il se déplace. Il est venu assez récemment à Bordeaux, au Pays Basque, à Bruxelles. Et c'est vrai que voilà, les centres, au fur et à mesure des années, on commence tous à fêter un petit peu nos anniversaires. Et voilà, 40 ans, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que c'est une génération. On se rend compte qu'il y a des... Donc là, on a dans l'association nous, des personnes qui étaient là il y a 40 ans. Et du coup, on voit aussi leurs enfants qui viennent, donc c'est, et les petits-enfants. Donc c'est assez extraordinaire de voir que ça traverse les années.
Est-ce que justement ça a évolué pendant toutes ces années sur la pratique, sur les personnes qui côtoient cette association?
Alors moi j'étais pas là il y a 40 ans, mais les personnes non, c'est assez divers, donc il y a pas vraiment d'étiquette en fait à poser sur les personnes qui viennent au centre. En termes de pratique, c'est vrai qu'il y a 40 ans, il y avait beaucoup moins de traducteurs par exemple. Donc quand un Tibétain venait, c'était pas forcément évident de communiquer avec lui. Enfin, il y avait quelque chose d'un petit peu magique apparemment là, qui se passait. Qui faisait qu'il y avait quand même une transmission, mais qui était moins évidente que maintenant. Donc là, par exemple, Jingme Rinpoche, il va s'exprimer en anglais, mais il a avec lui une traductrice qui le suit depuis des années, donc ça facilite vraiment les échanges.
Donc ce sera les 25 et 26 octobre, votre anniversaire. Vous avez prévu deux journées sur la thématique de la paix intérieure à la paix mondiale. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté se retrouver soi-même, mais aussi se connecter au monde, et j'imagine que en cette période trouble, c'est important.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas le thème nous est finalement apparu comme une évidence, donc oui, c'est extrêmement actuel. Je vais juste faire une petite correction. En fait, on a trois jours.
D'accord.
On a une conférence qui est le vendredi 25 en soirée, et ensuite on a le samedi 26 et le dimanche 27 le matin.
Donc avec cet invité. Et alors ça, j'imagine que la conférence notamment, c'est ouvert à tout le monde?
Alors tout l'événement est ouvert à tout le monde. Après effectivement, si on ne connaît pas du tout, la conférence est peut-être un petit peu plus accessible. En plus, c'est vraiment au cœur de Poitiers. On va être accueilli à l'auditorium du lycée Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Après, le samedi et le dimanche, on est accueillis dans la magnifique abbaye de Bonnevaux à Marseille. Donc, c'est une petite demi-heure au sud-ouest là, de Poitiers, mais dans un lieu absolument fabuleux qui lui-même s'intitule Le Centre pour la paix. Donc ça, voilà, ça matche vraiment bien. De toute façon, dans ces trois moments, il y aura forcément des possibilités de questions-réponses, d'échanges, de rencontres. Alors soit avec le maître, soit avec les gens du centre. Et on a énormément de gens qui viennent des DACPO environnants. On a Tours, Angers, La Rochelle, Oléron, Niort, Angoulême. Enfin voilà.
Qui viendront donc fêter cet anniversaire dignement.
C'est ça, avec nous.
Merci beaucoup, Katia Paquet, donc présidente de l'association DACPO Poitiers, d'être venue nous parler donc de ses 40 ans. Et pour en savoir plus, donc rendez-vous les 25, 26 et 27 octobre pour les différents événements que vous avez prévus. Merci beaucoup.
Merci.
On continue en musique avec DKLB, c'est un duo de rappeurs français originaire de Poitiers et qui avant s'appelait Culte, si jamais vous les avez connus sous ce nom-là. Voici donc un second projet rap et ce titre, Élément.
Gentleman, je rentre chez moi en chemin, pas de changement. Même chez ma mère, pourtant je domine, change de vie, je mange jamais. Mélange chimique, j'ai du sang de génie, je continue sans me gêner. Monter en haut de l'immeuble, en haut de l'immeuble. Il a honte de lui, honte de lui-même, honte de lui-même. Hier j'ai des choses à prouver, hein. Je fais tout ça pour les miens, peut-être un peu pour moi-même. Pouvoir mieux taffer Marine, bouffer tous les jours mon bol de ramen. J'ai 20 ans, j'ai de vie. J'adore cette vue, dans cette vision, je vois mon corps s'élever. J'entends cette voix genre quand est-ce qu'on se réveille. Depuis quand ça te fait tort, je suis dans ton cerveau. Je suis gentil mais j'en timide. Futur dans tes mains, hanté moi tiers. Hier me mets hors de moi, hors de ma vue. Je te demande pas ton avis, on t'a ordonné. Mauvais départ mes limites, j'emploie des mots pas les mêmes. Low element, buté jusqu'au dernier mob. Monté en haut de l'immeuble, en haut de l'immeuble. Il a honte de lui, honte de lui-même, honte de lui-même. Hier me mets hors de moi, hors de ma vue. Oh joli, enjolivé. Hier on a un jusqu'au lendemain.
Ma phobie mec, la pas du gain, je me sens comme Lil Wayne. Si tu bouges, bang, tire entre tes jambes. On est dans le Far West, univers et parallèle. Bang bang comme le groupe de K. Big bang, c'est le commencement. Dans le nouveau monde, New Sekai dans une boîte allemande. Sur New Vegas, contre Raw Blade. Avec tout ce blade, stop play, blow blow. Tu comme Blade, maître, runner, laisse tomber. J'tiens sous Smith et Wesson, j'suis triste et tu le ressens. N'y a plus rien de brosson, baby homme se ressemble. Mort donc à l'hameçon, bosse dans le caleçon. Un réveil dans mes mocassins, ADM dans mon calepin. La deuxième mannequin, défile les balles-mains. On court après les gains, on se touche même sans les mains. Se réchauffe sous l'ivresse dans le nouveau monde. En hiver, New Sekai dans une boîte allemande. Sur New Vegas.
Ça, c'est la radio chaude et urbaine qui ne renie pas son implantation dans la Terre.
Sans doute. C'est d'ailleurs la seule explication possible.
Et on accueille maintenant François Rio, qui est délégué général de l'AVUF, c'est l'Association des villes universitaires de France. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez, François Rio ?
Oui, je vous entends bien.
Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes à distance parce que vous allez arriver à Poitiers la semaine prochaine, donc pour le congrès annuel de l'AVUF, l'Association des villes universitaires de France, qui se passe donc cette année à Poitiers les 16 et 17 octobre. Peut-être on peut expliquer un petit peu ce que sont ces associations.
Oui, l'association rassemble 111 collectivités locales, hein, des communes ou des communautés d'agglomération comme le Grand Poitiers, de taille très très différente, puisqu'on a aussi bien les grandes métropoles comme Bordeaux, Lyon, Aix-Marseille, Paris, que des petites villes comme Corté au cœur de la montagne Corse ou plus près de Poitiers, Angoulême, Niort, Brive. Et ces villes, elles sont réunies, du moins leurs élus en charge des sujets de vie étudiante, d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation, pour partager leurs expériences, leurs expérimentations, leurs projets, leurs idées. Donc nous, on essaye de les réunir au moins une fois par an, sur des sujets différents. Ça a été souvent sur la vie étudiante, la précarité par exemple. Et là, cette année à Poitiers, c'est sur la recherche, sur les collaborations avec les laboratoires.
Recherche et territoire, voilà la thématique de votre congrès annuel donc à Poitiers. Quel est le lien en fait entre une collectivité et une université? Est-ce que ces liens ont tendance d'ailleurs à se resserrer ou à se distendre ces dernières années?
à se resserrer. C'est certain, se resserrer, même si les universités, elles sont sous tutelle de l'État. Il se trouve que les collectivités locales interviennent pour les soutenir, pour les accompagner. C'est une question d'attractivité, de rayonnement. Et puis, il y a aussi l'idée que le développement universitaire, ça peut favoriser le développement économique, l'emploi, l'élargissement de la connaissance sur la culture. On parle souvent de diffusion de la culture scientifique. Et puis plus récemment, ce qui motive les collectivités dans le travail qu'elles font avec les universités, hein, elles leur apportent des financements, mais c'est surtout en matière d'investissement. Hein, quand il s'agit de rénover des bâtiments, faire de nouveaux bâtiments, elles interviennent aussi sur les résidences étudiantes et autres. Jusqu'à présent, pas tellement sur la recherche. J'étais convaincu qu'en fait, les activités de recherche fondamentale se traduisent en recherche appliquée, que si une partie de cette recherche appliquée, elle profite en fait à l'innovation, au développement économique, donc à la création de nouveaux produits, par exemple. Les collectivités n'avaient pas forcément imaginé que le travail de recherche pouvait aussi les aider dans l'exercice de leurs propres compétences. Puisque les collectivités donc, sont amenées à intervenir sur l'urbanisme, sur les questions sociales, sur la voirie, sur l'alimentation en eau, sur les eaux usées, sur le traitement des déchets. C'est des compétences qui deviennent de plus en plus complexes, surtout dans le cadre du réchauffement climatique. Et là, il y a la nécessité d'innover, donc du coup de travailler avec les chercheurs.
Et alors, dans une période un petit peu de disette pour les collectivités locales, on entend bien qu'elles vont avoir des difficultés financières. Est-ce que, justement, ce lien-là a besoin d'être réaffirmé et de réaffirmer son utilité et le soutien aux universités par les collectivités ?
Oui, bien sûr. De toute façon, d'une manière générale, les universités sont un petit peu fragiles économiquement, donc... On a déjà un État qui essaye de faire des économies, les collectivités qui ont leurs finances un petit peu sous tension. Donc forcément, tout le monde fait attention. Pour autant, nous, ce qu'on essaie de démontrer à la BUF, c'est que ce n'est pas pour rien qu'on soutient les universités. Les collectivités ont ce qu'on appelle du retour sur investissement parce que ça leur permet d'être plus efficaces, de gagner donc en efficacité. Et notamment, par exemple, sur les questions de réchauffement climatique, il y a des collaborations énormes qui existent aujourd'hui sur ce qu'on appelle les îlots de fraîcheur ou les îlots de chaleur. Il y a des collectivités aussi qui s'aperçoivent qu'au niveau des compétences internes de leurs équipes, il y a besoin d'avoir des personnes de très haut niveau qui ont une démarche scientifique dans l'approche des problèmes. C'est ainsi qu'elles peuvent accueillir des doctorants dans le cadre de contrats chiffres qui étaient jusqu'à présent réservés aux industries. Et certaines petites collectivités ont commencé à le faire très tôt. Je pense à la mairie de Cluny, qui doit avoir à peine 10 ou 12 000 habitants, qui a accueilli des doctorants donc pour faire leur travail de recherche au sein de la collectivité.
Et alors, il y a cette question aussi de l'autonomie de plus en plus forte des universités, voire même réclamée par certaines universités. Est-ce que ça leur permet aussi, on le voit à Poitiers, d'être plus territorialisé, de s'orienter plus vers les besoins du territoire ?
Oui, bien sûr. L'université de Poitiers est un très bon exemple parce que c'est une université qui a un fort ancrage territorial, non seulement... sur Poitiers, l'agglomération de Poitiers, mais également sur ses antennes à Châtellerault, à Angoulême et à Niort. Cet enracinement, il permet aussi des partenariats gagnant-gagnant, puisqu'il y a des collaborations de recherche dans lesquelles les collectivités sont cofinanceurs en fait, des travaux de recherche. Et d'une manière générale, les universités vont être amenées à diversifier leurs ressources. On parle de ressources propres. Il y a les ressources propres, c'est les frais d'inscription, ils sont très faibles, ils resteront modiques, mais il y a aussi les contrats de recherche avec les acteurs économiques et industriels, et puis de la recherche partenariale avec les acteurs territoriaux que sont les communes, les communautés urbaines ou les régions.
Et alors là, sur ces temps de rencontres à Poitiers, les 16 et 17 octobre, est-ce qu'il y aura des moments qui seront aussi ouverts au grand public et qui permettront de comprendre un petit peu ces enjeux ?
Alors, on n'avait pas prévu ça. Effectivement, c'est un rassemblement en fait des élus et des collectivités locales, des élus et des personnels des services puis également des chercheurs, hein, qui se rencontrent annuellement. Mais c'est tout à fait possible d'accueillir des personnes qui appartiennent ni au monde de la recherche, ni celui des collectivités locales, et puis qui sont intéressées par ce sujet. Il y a plein d'ateliers le jeudi, le mercredi 16, et puis le mercredi après-midi, qu'on peut parfaitement ouvrir au grand public. Donc il y a une interface d'inscription sur le site avuf.fr, et donc les personnes qui souhaitent s'inscrire sans frais d'inscription peuvent à ce moment-là le signaler. On a également des visites qui sont organisées le jeudi matin en centre-ville de Poitiers pour justement explorer certaines formes de collaboration entre le territoire et les chercheurs.
Il y a aussi un colloque qui aura lieu en même temps, enfin c'est le 15 octobre, avec des chercheurs en sciences sociales.
Oui, ça c'est plus technique, c'est-à-dire qu'il y a parmi les géographes, les urbanistes, les sociologues, les économistes, donc plutôt les sciences sociales et humaines, un certain nombre de laboratoires, d'équipes de recherche qui travaillent sur l'enseignement supérieur lui-même comme objet scientifique. Donc, ils travaillent par exemple sur l'insertion professionnelle, sur l'orientation, les relations entre la science et puis les entreprises, des choses comme ça. Et donc, ils se réunissent en congrès dès le mardi, en colloque, dès le mardi 15. Et une partie de leurs travaux s'enchasse dans les nôtres dans la journée du mercredi 16.
Et alors, juste une dernière question, c'est des exemples concrets. Vous parliez, par exemple, de la recherche sur les îlots de chaleur dans les villes. Est-ce que vous avez un ou deux autres exemples qui auraient pu être mis en place déjà à Poitiers ou dans d'autres communes ?
Alors, je crois qu'il y a un gros travail qui se fait sur la question de l'eau, avec un gros laboratoire qui s'appelle P-Prime, je crois, sur Poitiers, qui est installé, me semble-t-il, au Futuroscope. Donc ça, c'est un très gros travail qui est engagé là-dessus. Il y a aussi, à la limite de la formation et de la recherche, ça c'est la fondation de l'Université de Poitiers, qui a encouragé en fait des approches multidisciplinaires sur des questions qui sont posées par des collectivités locales, ça peut être même des villages du Poitou-Charentes, qui sont à ce moment-là traités par des étudiants encadrés, mais des étudiants de plusieurs disciplines. Donc on peut avoir des étudiants en biologie, d'autres en droit, d'autres en sociologie, d'autres en économie, d'autres en chimie, et qui vont constituer une équipe pour répondre à une problématique posée à ce moment donné par une collectivité au regard d'un sujet précis sur son territoire qui peut concerner l'urbanisme, qui peut concerner l'adaptation au changement climatique, qui peut concerner l'écoulement des eaux, des choses comme ça.
Merci beaucoup François Rio. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'AVUF, donc l'Association des villes universitaires de France, et que donc vous faites votre congrès annuel national des villes universitaires à Poitiers les 16 et 17 octobre sur la thématique recherche et territoire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et bonne journée.
Bonne journée. Demain dans Séquence Midi, on parlera de la semaine de la mode responsable qui prend de l'ampleur et qui devient la quinzaine de la mode responsable en Nouvelle-Aquitaine. Tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous cinéma avec Candice Mottet-Debert, médiatrice au cinéma L'Électriche. Bonjour Candice.
Bonjour.
Et aujourd'hui, tu nous parles de l'histoire de Souleymane.
Tout à fait. Alors, on commence nos 40 ans aujourd'hui et en même temps sort un film très important pour nous qui s'appelle L'Histoire de Souleymane, qui est notre coup de cœur du mois. C'est une sortie nationale. Le film a été repéré à Cannes où il a gagné le prix du jury et le prix du meilleur acteur dans la catégorie Un certain regard, meilleur acteur pour Abou Sangaré qui est actuellement un sans-papier qui est menacé d'OQTF. Donc voilà, deux mondes qui se collisionnent. Et voilà le résumé. Tandis qu'il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Souleymane répète son histoire. Dans deux jours, il doit passer son entretien de demande d'asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Souleymane n'est pas prêt. Donc voici l'histoire de ce drame de Boris Lechkine, qui est un réalisateur français qu'on aime beaucoup, qui avait fait Hope et Camille, qui était déjà sorti au Dietrich. Alors l'histoire de Souleymane fait la une de Libé aujourd'hui, avec cette histoire absolument glaçante de cet acteur récompensé au festival le plus prestigieux du monde, mais qui est menacé d'expulsion. Je vous lis une petite critique de nos amis de mondociné.net. Drame porté par une tension à couper le souffle, l'histoire de Souleymane est une odyssée sur quelques jours décisifs qui provoquent des émotions fortes, d'angoisse, d'indignation, de déchirement et de compassion. À l'heure où une crise politique grave couvre notre pays avec la menace d'un repli sur soi, à l'heure où ces migrants, qui font souvent les jobs les plus difficiles dont personne ne veut, qui sont de plus en plus mal vus ou rejetés, le film de Boris Lechkine est une piqûre d'humanité, un rappel pour toutes celles et ceux qui oublient. Ça sort aujourd'hui et c'est tous les jours au Dietrich tout le mois d'octobre.
Et pour cet anniversaire, vous avez prévu une soirée avec des drag queens.
Tout à fait. Alors, on change un petit peu. On va quand même faire aussi du cinéma qui fait du bien, qui fait rire, même si tous les cinémas font du bien. Les Reines du Drame, c'est samedi soir à 21h. Alors, ce sera une avant-première. C'est le premier film, ce premier long métrage d'Alexis Langlois, qui est un réalisateur français. C'est une idylle entre un couple lesbien 100% toxique, hein, on va le dire, entre deux pop stars. Une qui va réussir grâce à un fameux télécrochet, Nouvelle Star, pour ne pas le citer. Et une qui va rester un peu dans l'ombre, qui est plutôt de la scène rap-rock underground. Et comment leur couple, ma foi, passionnel, va résister à ce star system. Alors c'est un film qui nous a beaucoup plu, donc on vous le propose en grande avant-première parce qu'il sortira fin novembre. C'est un film très kitsch, des paillettes, du décor. C'est une comédie musicale où toutes les chansons ont été écrites pour le film par Rebecca Warrior et Yael, qui sont des artistes musicales qu'on aime beaucoup également. Alors vous retrouverez au casting des actrices et acteurs que vous ne connaissez pas forcément, mais il y a aussi Bilal Hassani qui joue le rôle d'un youtubeur du futur qui va critiquer ce couple de lesbiennes. C'est absolument merveilleux, c'est très grotesque. On aime ce film qui en fait des caisses. On a adoré ce film. Et quoi, qui de mieux pour les accompagner que nos amis de la coloc drag. Donc, il y aura deux drag artistes qu'on aime beaucoup, Luna Sangré et Xoxo, qui feront des performances chantées et musicales avant, puis après le film. Et à la fin du film, à 23h, on se dirige tous à deux pas du Dietrich à la scène Maria Cazares, faire la boum des 40 ans du Dietrich sur des musiques de films. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. C'est samedi soir à 21h.
Merci beaucoup Candice, c'est l'anniversaire, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche avec tout un tas de rendez-vous. Si vous les avez manqués, vous pouvez réécouter Séquence Midi de lundi où on vous a détaillé tout le programme. Et tout de suite, c'est l'heure de vos autres idées sorties avec votre agenda. Plus de 60 ans, connaissez-vous vos droits, logement, santé, mobilité, démarches administratives, internet, téléphone, retraite, maintien d'autonomie, gestion de budget? À qui demander? C'est parfois compliqué. Alors des ateliers découvertes sur l'accès aux droits sont prévus ce mois-ci et le mois prochain. Aujourd'hui, ça commence à 14h15 et à 16h30. C'est organisé par le CIFSP Solidaire entre les âges. Place des Templiers, donc rendez-vous à 14h15 jusqu'à 16h30. Les coulisses de la recherche, découvrez le CHU autrement. C'est donc organisé par le CHU et le Fonds Aliénor. Les coulisses de la recherche vous proposent cette année encore une immersion en deux temps sur le site de la Milletrie. Donc c'est de 16h à 21h avec un village des chercheurs dans le hall d'accueil de Jean Bernard. Et puis des visites d'une durée d'une heure chacune avec la régulation du centre 15, la réception centralisée des prélèvements et la chaîne automatisée de préanalyse, la plateforme de recherche IRM 7 Tesla, la plateforme de recherche prismatique et la Villa Santé. Tout ça à découvrir à chaque fois sur des circuits d'une heure que vous pouvez cumuler. Le dernier départ est à 20h. Tout est gratuit, notamment le stationnement, mais l'inscription est obligatoire, donc allez vite sur le site du CHU. Fake news et seconde guerre mondiale, c'est une proposition à 18h à l'espace Mendès France, une table ronde donc, qui sera l'occasion d'un parallèle avec certaines fake news contemporaines avec Guillaume Bourgeois, maître de conférence, Yanis Delmas, universitaire, chercheur en histoire des sciences et des techniques, Paul Lévy, historien, et donc c'est à l'espace Mendès France. Et puis à la Fanzinothèque à 19h, il y a Black et Noir, enragez-vous, vous l'avez entendu, ça a été détaillé donc, dans notre émission précédente Tout confort, donc à découvrir à la Fanzinothèque ce soir. Et puis au Toit du Monde à 20h, rencontre avec Pierre Rimbert, journaliste au Monde Diplomatique, autour du manuel d'autodéfense intellectuelle Histoire. Voilà, donc ça c'est à 20h au Toit du Monde. On se quitte donc avec le programme sur Pulsar. À 14h, c'est Indie Week avec une radio allemande, une playlist. À 17h, c'est une émission en direct de Radio Campus France au Festival Electropical à La Réunion. À 18h, l'émission conjointe Radio Student Slovenia et Radio Campus France, plein de nouveautés, donc plein d'événements sur Pulsar, et 21h vos classiques, l'indépendance, et 23h Sonokino. Merci Angélique pour la réalisation technique. Je vous propose de découvrir justement un petit extrait de ce qui vous attend au festival Les Électropicales. Bon après-midi, à demain.
Comment on y fait tant de temps, pas n'aller toujours pressé. Caillou nous dit allons, le temps là nous laisse aller. Don't get out the clock in my head, doesn't take the place them should have in my life. But I need a tic-tac to understand, to me time belongs to the trees and the night. La même la réunion, on peut nous mettre ensemble, la paf et le fion. Ça même pas des sous, tout y batta, mais ils te les rendent rond. Dans mon petit pays, depuis la cour, l'école, n'est pas toute nation. Et na
au petit tac, que la peau des tacs aux ailes marrons. Au tic tac nawa, tiens je coupe gros bois, allez pas tracasser. Non non, viens mada au tic tac nawa, tiens je coupe gros bois, allez pas tracasser. Si mes ouïes appellent demain, le temps là il est passé. Quand si mon petit caillou la pli farine, soleil là va arriver. Viens mada au tic tac mon noir, un monde sans femme c'est un repas sans carré. Viens mada au tic tac mon noir, caniquille au cœur, caniquille l'esprit.
Les étoiles ont